Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue à tous les curieux, c'est votre émission du soir jusqu'à 22h avec vous Thomas. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va bien?
À vos cloportes qui
font non, je me disais, mais elle démarre pas Sidonie, qu'est-ce qui se passe?
Je prenais mon temps.
Voilà, une grande
soir.
Respiration avant 2
oui,
heures d'antenne, c'est
bah,
ce qu'il faut
sûr.
Faire. En tout cas, vous pouvez réagir, vous êtes là avec nous et on attend vos questions, vos réactions au 3210 sur rtl.fr ou alors avec le mot dièse sur les réseaux sociaux, le hashtag la curiosité RTL. C'est Sarah qui est au bout du fil, qui fait des grands gestes. Hein. Vous pouvez peut-être la voir d'ailleurs sur rtl.fr. Alors, il y a quoi au programme?
Des secrets de rois et reines de l'histoire de France. Pourquoi Louis XV avait un drôle d'humour? Pourquoi Henri IV était sex addict? Pourquoi Charles IX était pervers? Pourquoi a-t-on inventé à la cour la braguette? Et pourquoi les femmes mettaient 4 heures à se maquiller? Des questions et des réponses, oui je vous jure, vers 20h40.
Et puis on va revenir au calme, sans polémique, sur l'histoire de la colonisation, notamment en Algérie. Il y a 2 semaines, vous vous souvenez, Emmanuel Macron parlait de crimes contre l'humanité. On va revivre les grandes dates de l'Empire colonial français, surtout en Algérie.
Et puis dans la curiosité, on apprend 1000 choses tous les soirs. Hier, par exemple, notre invité nous a bluffé quand il nous a raconté pourquoi les pyramides égyptiennes brillaient au soleil.
Les pyramides avant étaient recouvertes de calcaire, donc il y avait une surface parfaitement lisse.
D'accord.
Et donc ça scintillait dans le désert.
Tout de suite, on se passionne pour l'intelligence animale.
T'as vu un défaut.
On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches.
Jusqu'à 22h.
La danse de la vache.
RTL.
La danse de la vache. Danse. La danse de la vache.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez sans doute vu cette vidéo qui a beaucoup de succès sur Internet. On y voit une vache manifester de la joie parce qu'on l'amène au pâturage. Les animaux ont-ils des émotions et donc une intelligence? Qu'est-ce qui permet de la mesurer, cette intelligence? On pose la question à notre invité, Emmanuel Puydebas. Bonsoir.
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 Vous êtes chercheuse au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous travaillez sur l'évolution des comportements des animaux. Une vache qui manifeste de la joie, c'est nous qui plaquons nos propres émotions sur cet animal, ou en effet, elle peut éprouver de la joie et c'est un témoin de son intelligence?
Bah, le mot joie, c'est un mot, oui, c'est très humain. Hein. Qu'est-ce que c'est vraiment que la joie? J'en sais rien. En tout cas, sur cette vidéo, c'est une excitation très claire pour la sortie, et aller retrouver ses congénères et puis son herbe pour se balader, pour se promener dans son espace et éventuellement manger ce qu'il y a à manger. Donc de la joie, je sais pas, faudrait le définir, mais en tout cas, c'est de l'excitation certaine, oui.
Et de l'intelligence?
L'intelligence, alors est-ce que être joyeux, c'est intelligent? Je renvoie même la question pour l'espèce humaine. Moi, j'ai envie de dire oui. Hein.
savoir être heureux.
Vous êtes dans une émission joyeuse et vous êtes très souriante, donc vous avez raison de répondre oui. Est-ce qu'on peut dire que tous les animaux ont une forme d'intelligence?
Ah oui, là, je vous réponds oui sans hésiter. De l'intelligence telle que je la définis, c'est-à-dire comme une adaptation, une fonction adaptative qui permet de s'adapter à son environnement, éventuellement de modifier son comportement s'il y a des changements, pour un bénéfice. Oui, c'est tous les animaux peuvent présenter de l'intelligence, oui. Alors à différents degrés et pas forcément pour les mêmes comportements, mais.
Et depuis quand la science reconnaît et étudie l'intelligence chez l'animal? C'est récent?
Alors ça dépend ce qu'on entend par étudier. Si c'est observer les animaux et essayer de les comprendre, je pense que ça existe depuis très très longtemps. On ne saura jamais quand ça a commencé vraiment. Si c'est vraiment porter des jugements et des démonstrations dessus, je dirais que ça commence très tôt, probablement dès l'Antiquité. Je pense là rapidement à Aristote qui prêtait une intelligence pratique aux animaux. Donc c'est très ancien. Après, ce qui a changé, c'est les méthodes pour les étudier. Mais d'étudier les animaux, les observer, c'est très très ancien.
Et on parlera de vos méthodes, à vous, Emmanuel.
Et ces méthodes, vous en avez tiré un livre, L'intelligence animale, cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphant. C'est chez Odile Jacob avec une préface d'Yves Coppens. Et évidemment, le premier animal que vous observez, ben c'est nous. C'est l'homme.
C'est
les humains, oui. Qu'on peut quand même se dire les plus intelligents des animaux sur Terre?
J'ai pas envie de vous répondre oui, parce que je le pense pas. Donc en général, je dis ce que je pense et non, les humains pour moi sont pas les plus intelligents. Déjà d'une manière générale, si je reprends ma définition, à savoir une fonction adaptative, j'ai pas l'impression qu'on soit si bien adapté à notre planète. naître, vu de, enfin, à quel point on l'a détruit, notamment aujourd'hui. Et par contre, c'est vrai que pour certains, disons que pour certains types de comportements, on est sans doute plus intelligent, mais pour d'autres, non. Il y a des animaux qui font mieux que nous pour certaines capacités. Donc, d'une manière générale, à titre adaptatif, j'ai pas franchement l'impression. Vous connaissez mieux les actualités que moi dans la maison. Il suffit de regarder les actualités pour se rendre compte à quel point les humains sont capables de stupidité aussi. Mmh. Mais pour certains comportements spécifiques, il y a des animaux qui font mieux que nous.
Alors, par exemple, on va commencer à entrer dans la géante ménagerie du monde avec vous, Emmanuel Puydebas, et découvrir les singes qui sont absolument passionnants à observer. Quels outils utilisent, par exemple, les chimpanzés? Parce que l'outil, c'est une preuve d'intelligence.
Alors, l'outil, c'est une preuve d'intelligence, oui et non. Disons oui, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation d'outils qui, effectivement, nécessitent des capacités cognitives. Mais à l'inverse, il y a des comportements qui ne sont pas de l'utilisation d'outils, juste de la manipulation d'objets, qui ne font pas intervenir de l'outil, mais qui parfois sont plus compliqués d'un point de vue cognitif. Mais globalement...
Oui, mais quand même, l'outil, ça veut dire qu'on a pensé à aller chercher un objet dans la nature qui va améliorer notre efficacité. Donc, c'est
fait.
Un cran
tout
supplémentaire, peut-être,
oui,
je
oui,
sais
oui,
pas.
Oui, oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est une de mes thématiques préférées.
Et alors, ces chimpanzés,
il y a différentes utilisations d'outils chez les chimpanzés. Il y en a plein, j'ai plus le nombre exact en tête, mais il y en a plein pour aller chercher de la nourriture, pour l'hygiène, pour jouer, etc. Alors, dans le cadre d'utilisation d'outils pour aller chercher de la nourriture, il y en a des connus, comme utiliser des pierres ou des branches pour casser des noix. C'est un comportement qui nécessite beaucoup d'apprentissage, notamment chez les jeunes.
C'est-à-dire qu'on voit les plus âgés apprendre ça aux petits?
Oui, alors
il y a une transmission.
Alors ça peut être un apprentissage par observation.
Ouais.
Il y a un exemple qui montre, il y a certains chercheurs qui parlent de pédagogie de la maman. Il y a un ou deux cas qui montrent la maman qui mime le mouvement plus doucement pour que le petit comprenne mieux ce qui se passe. Faut vous imaginer une noix qui est très très dure. Donc si vous tapez trop fort, vous pouvez l'écraser, mais si vous tapez pas assez fort, vous l'ouvrirez jamais. Donc c'est vraiment un mouvement qui est compliqué à apprendre. Pour avoir essayé, c'est pas simple. Donc c'est vraiment un apprentissage qui se transmet, oui, de génération en génération.
Et alors, je découvre même dans votre livre, Emmanuel Puydebas, que les chimpanzés sont capables de se fabriquer des chaussures. En quelle matière, à quelle occasion?
Des chaussures.
En daim, après les avoir chassées.
Je me suis peut-être emballée sur la chaussure.
Non, chaussure, c'est une bonne image. Ça permet de voir concrètement ce qui se passe. Après, il y en a qui parlent de tongs, pour l'exemple des chimpanzés.
Ah oui.
En fait, il faut imaginer, c'est un arbre en fait, qui, sur le tronc, a des énormes épines coniques. Et donc, certains chimpanzés utilisent des écorces qui se mettent sous la plante des pieds et qu'ils arrivent à coincer entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc, ça leur permet de se protéger. Et ils se payent même le luxe de prendre certaines écorces pour se protéger les fesses, parce que c'est un arbre en fait où ils sont obligés de rester longtemps, parce que cet arbre produit un fruit qui est très important pour leur nutrition.
C'est comme au théâtre, il faut quelque chose pour se protéger les fesses.
C'est ça.
L'humain et le singe ne sont pas les seuls animaux malins. On part découvrir comment les lions s'enlèvent des épines du pied et comment les ours se grattent sans problème le museau. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'intelligence animale, c'est notre curiosité du jour. Notre invitée est chercheuse au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Emmanuel Puydebas, vous vous passionnez pour les comportements des animaux. Ça veut dire que vous les observez partout? Vous ratez jamais une occasion?
Ah oui, mais même pendant les vacances. Moi, je peux passer une journée devant une mouette. Hein. C'est une passion, ça s'explique
ouais.
pas.
C'est sympa des vacances avec vous.
Mais je vous comprends.
Je suis pas très embêtante.
En ce moment. Oh ben pour la conversation quand même. Faut pas vous déranger, c'est ça. Mais moi, en ce moment, je suis en train d'observer. Je raconte ma vie comme souvent dans cette émission.
C'est pour ça qu'on vous aime.
Un couple de pies qui est juste devant... Quand je bosse le matin, je prépare la curiosité, je les vois en train de faire leur nid. L'autre fois, elles se sont à moitié battues avec des corbeaux. Pour protéger leur espace.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Ah bah oui, ils protègent leur territoire, donc forcément, s'il y a quelqu'un qui vient dessus, ça se passe pas très bien.
Ouais. Et vous observez l'infiniment petit aussi, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une loupe à regarder les fourmis
Alors, les fourmis, non. Le plus petit que j'ai fait pour l'instant, c'est le Bernard l'Ermite, donc j'ai pas besoin de loupe.
Ouais.
Par contre, quand on regarde vraiment les choses en détail, on peut être amené à filmer à vitesse plus élevée pour regarder ce qui se passe vraiment sur des ralentis très précis.
Ouais.
Mais sinon, globalement, je suis plus sur ce qu'on appelle du macroscopique, c'est-à-dire vraiment globalement qu'est-ce qui se passe, alors avec des méthodes plus ou moins détaillées pour quantifier ce que j'observe, mais ça peut être un petit peu en milieu naturel, et moi je fais beaucoup plus de parcs zoologiques et d'expérimentations en laboratoire, mais c'est très complémentaire des études en milieu naturel.
Emmanuel Puydebas, vous comparez aussi l'humain et les animaux. On a l'impression quand même que l'humain, et vous en êtes un exemple avec la science, permet de progresser. Est-ce qu'on est plus intelligent? Je ne sais pas, mais en tout cas, on avance. Est-ce qu'il y a comme ça une progression de l'intelligence, une évolution dans le règne animal?
Oui, 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 tout à fait. On a des exemples de... Alors, juste une progression, oui et non, il ne faut pas imaginer l'évolution de l'intelligence comme quelque chose qui part du plus simple au plus complexe. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, parce qu'en fait, vous avez des ancêtres, par exemple, des céphalopodes, des pieuvres, etc., qui sont vraiment très anciens, hein, c'est plus 500 millions d'années, qui étaient peut-être plus intelligents que certains singes d'aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à cette image de c'est comme l'évolution, finalement. Il n'y a pas forcément une évolution pyramidale, morphologique, du plus simple vers le plus complexe.
C'est pas forcément linéaire.
Non, non, non. De mon point de vue, l'intelligence, le comportement, c'est comme la morphologie, c'est une évolution buissonnante. Alors après, ça n'empêche pas qu'on a des exemples chez les humains, mais aussi chez les autres animaux, d'une certaine complexité, notamment par la transmission des savoirs. Il y a des exemples chez les macaques japonais qui montrent très bien. Il suffit des fois d'une innovation, un individu dans le groupe qui va inventer quelque chose, et cette invention va être transmise. Par exemple, il y a une petite femelle macaque japonais un jour qui a eu l'idée de tremper la patate douce que les humains leur donnaient pour les habituer, en fait, dans l'eau pour la nettoyer. Et ce comportement, petit à petit, s'est transmis à tout le groupe et à toutes les populations de macaques japonais. Et une autre fois, il s'est passé la même chose avec du blé. Elle a lancé le blé dans l'eau, ce même individu. Hein, elle a lancé le blé dans l'eau. Le sable coule, le blé reste, comme ça il est propre, ils peuvent le consommer. Et ça a conduit à une autre évolution de comportement, c'est-à-dire que maintenant ces macaques japonais vont volontiers dans l'eau, ils s'amusent dans l'eau, ils vont même pêcher, ils font même un petit peu d'apnée.
Et ça va se perpétuer sur plusieurs générations.
Ça peut tout à fait. Alors il y a des innovations, du coup on parle plus d'innovations qui ne se transmettent pas de génération en génération, puis il y en a d'autres qui se transmettent. Et le fait que ça se transmette ou pas, c'est des choses assez complexes.
Vous racontez ces histoires dans l'intelligence animale publiée chez Odile Jacob avec plein d'exemples, moi, que je trouve fascinants. Par exemple, comment fait la loutre pour ouvrir des coquillages?
Alors, la loutre, pour ouvrir des coquillages, elle se met sur le dos. Et même d'ailleurs, les loutres, quand elles sont sur terre, elles se mettent souvent sur le dos pour jouer avec des petits cailloux, par exemple. Donc, dans l'eau, elle se met à la surface de l'eau, sur le dos. Elle a pris ce qu'on appelle une enclume, c'est-à-dire une pierre qu'elle se pose sur le ventre et elle prend les coquillages dans ses deux mains. Je dis mains, hein, et puis elle tape le coquillage contre sa pierre pour l'ouvrir. C'est ce que certains appellent du proto-usage d'outils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil pour transformer le coquillage, mais on prend le coquillage pour le taper sur un substrat. Et il y a plein d'autres animaux qui sont capables de faire ça.
Et le lion qui arrive à s'enlever une épine du pied, comment il procède?
Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément les exemples les plus connus, mais
parce que nous déjà les humains on a du mal à s'enlever des épines du pied, hein.
Oui,
on y va avec la pince à épiler, ça fait mal.
En fait, il peut très bien prendre une épine pour s'en enlever une autre, c'est-à-dire qu'il va le mettre dans sa gueule et puis il va appuyer à la base de la peau, hein, là où l'épine est rentrée dans la peau, et puis il va, à force de manipuler ce petit outil, il va faire sortir son épine.
C'est dingue.
Et alors,
ça,
Thomas
Je me vante jamais, moi.
Si, vous disiez que vous arriviez à vous gratter le museau, mais enfin, c'est pas exceptionnel pour un humain avec
ça,
une main.
Ça me rappelle un Astérix où il y a une scène, je sais plus si c'est Astérix, qui montre que lui aussi il peut se gratter l'oreille comme idée fixe. Parce qu'il en a marre.
Hein.
Il faut beaucoup de souplesse.
Et là, notre ours brun arrive à se gratter le museau, mais avec sa patte ou avec,
non, avec
un objet
pierre. Avec une pierre. L'ours brun, alors il faut imaginer l'ours brun, hein, c'est quand même un animal assez colossal, aller chercher une pierre. Alors en plus, il choisit bien les pierres, hein. Il prend pas des pierres polies, il prend vraiment des pierres relativement rugueuses, il la prend dans ses pattes et puis il se frotte le museau pour se gratter avec. On connaît les comportements d'ours bruns qui vont se frotter contre les troncs d'arbres pour se gratter, mais là c'est vraiment une utilisation d'outils pour un confort.
Alors on oppose souvent la mémoire d'éléphant à celle du poisson rouge. Est-ce juste, est-ce injuste? Réponse tout de suite sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL, première radio de France.
Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile d'araignée.
RTL.
Bientôt 22e éléphant.
La curiosité est un vilain défaut.
Ouvrez la cage aux oiseaux.
Jusqu'à 22h.
Prenez la vie du bon côté. Riez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un ours très bien léché.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des ours bruns qui se grattent le museau avec une pierre, des lions qui s'enlèvent une épine du pied. On se passionne pour l'intelligence animale avec Emmanuelle Puydebas, chercheuse au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. On a l'habitude de dire une mémoire d'éléphant, et c'est justifié car l'éléphant a une mémoire incroyable. Il arrive à repérer son espace un peu comme une carte, un peu comme s'il avait un GPS même dans la tête. Et souvent, à mémoire d'éléphant, on oppose une mémoire de poisson rouge. Est-ce qu'Emmanuelle, ces petits poissons sont vraiment si peu gâtés par l'intelligence?
Alors, première chose, bon, par rapport à la mémoire d'éléphant, c'est sûr que c'est difficile de lutter parce que l'éléphant a une mémoire visuelle, olfactive, vocale qui est assez incroyable. Par contre, le poisson rouge, je suis en train de penser au sketch de Jean-Marie Bigard qui est très drôle, mais qui fait vraiment une mauvaise presse au poisson rouge parce que le poisson rouge a quand même une mémoire. Il est tout à fait capable de, par exemple, sur des expériences en laboratoire qui ont été menées, il est tout à fait capable de mémoriser à quel moment de la journée, à quelle heure précise de la journée, il va falloir actionner son levier pour récupérer de la nourriture. Et c'est pas du tout une mémoire de 2, 3, 4 minutes, hein, ça perdure.
Et alors, je lisais dans votre livre qu'il peut même avoir une mémoire de 3 mois, ce poisson rouge. Ça veut dire quoi? Qu'au bout de 3 mois, il oublie tout?
Non, mais même au-delà.
C'est Dory.
C'est d'ailleurs, ça s'appelle les gobies.
Oui, les gobies. Mais là, c'est pas des mémoires de 3 mois. C'est des mémoires qui sont bien plus longues que ça, parfois à l'échelle de la moitié d'une vie entière. Hein. Les gobies, ils changent de mare pour chercher de la nourriture. Ils sont tout à fait capables d'aller très très loin de leur nid et puis de retrouver le chemin pour rentrer à leur nid. Il y a aucun problème. Alors après, on est d'accord par rapport à la mémoire d'éléphant. Voilà, ils jouent pas dans la même cour, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même une mémoire qui n'est pas négligeable.
Alors, dans votre livre, l'intelligence animale, vous opposez mémoire d'éléphants et cervelle d'oiseau. Là aussi, j'imagine qu'on va chasser quelques idées reçues à propos des oiseaux. Tiens, on commence, pourquoi pas, tiens, par le vautour. Comment fait-il pour casser un œuf d'autruche, tiens, qui est très appétissant là?
Bonne omelette du midi.
J'aimerais bien le manger, celui-là.
Bah, en fait, il prend un caillou dans son bec et puis il le lance sur le caillou. J'ai
donc,
envie de dire tout simplement,
faut savoir
c'est
viser
pas si
quand
simple,
même.
Mais il faut savoir viser, surtout que le caillou est assez lourd parce qu'un œuf d'autruche, il faut quand même le casser.
La carapace est assez épaisse.
Oui, la coquille est vraiment épaisse.
Heureusement que vous êtes là. En même temps, c'est vous la scientifique.
Mais ça veut dire que ce vautour, en fait, il va lancer sa pierre jusqu'à ce que l'œuf se casse. C'est-à-dire qu'il y a la notion de persévérance aussi.
Oui, ça peut ne pas marcher du premier coup. Mais en général, il est suffisamment adroit pour que ça marche assez rapidement.
C'est souvent la nourriture qui déclenche l'intelligence. Finalement, il y a beaucoup d'exemples que vous nous donnez où on voit que les animaux ont développé l'intelligence pour réussir à se nourrir
et donc à
faire survivre l'espèce.
Oui, c'est sûr que pour un animal en milieu naturel, pour survivre, il faut trouver des partenaires, il faut chercher de la nourriture et il faut fuir les prédateurs. Donc il y a beaucoup de comportements qui sont liés à ça. Mais il y a aussi des exemples pour s'évader, pour l'hygiène. Voilà,
pour s'amuser.
Pour s'amuser, oui, il y a un exemple.
Il y a de l'intelligence ludique.
Oui, tout à fait. Vous qui avez observé vos pies, par exemple, chez les pies et les corneilles, on sait que certains individus sont capables de prendre des récipients, des couvercles, pour les emmener en haut des pentes enneigées sur les toits et de glisser en faisant de la luge ou du snowboard.
Attention à votre vaisselle, Thomas, alors.
C'est là qu'est passée ma casserole.
Remarque, s'il y a vide de la vaisselle, les pies, c'est pas mal.
Je pensais que quelqu'un me l'avait piqué pour la campagne électorale, mais non, c'était les pies. Là, j'ai tout compris.
Le héron aussi, vous parlez du héron Emmanuelle Puydebas, qui sait attirer ses proies, qu'il y a toute une stratégie pour pouvoir se régaler.
Oui, le héron, en fait, il faut l'imaginer au bord de l'eau, il lance des appâts, en fait, il lance de la nourriture, alors ça peut être des morceaux de pain, il lance la nourriture, puis il attend, il observe, et quand le poisson arrive, bah, il le chasse à l'affût, quoi. Mais oui, il utilise des appâts, en fait.
Alors, il y a une histoire géniale, il faut prendre le temps de bien la raconter, Emmanuelle Puydebas, c'est l'histoire du... Alors, ça s'appelle comment cet oiseau? Le Clark, le casse-noix de Clark?
Oui, le casse-noix de Clark.
Son nom entier, c'est le casse-noix de Clark, d'accord?
Oui, c'est ça.
Donc, il vit aux États-Unis, plutôt dans le sud-ouest des États-Unis, c'est ça?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce casse-noix?
En fait, le casse-noix de Clark, quand vient l'hiver, il cache sa nourriture. Alors, ça peut être de 3 à 5 graines dans à peu près 10 000 cachettes différentes. Et ensuite, quand il fait trop froid, il descend à des altitudes un petit peu plus clémentes. Et quand vient le printemps, donc à peu près 6 mois après, il remonte dans ces altitudes et il retrouve à peu près 3 000 cachettes des 10 000 où il a caché ses graines. Alors parmi ces 3 000 cachettes, on sait que par exemple quand il cache sa nourriture, il met probablement des petits indices visuels parce que parfois il met de l'herbe, il met des petites branches, des petits feuillages. Le problème c'est que parfois il y a de la neige qui passe dessus.
Oui, ou du vent qui va retirer
ou des petits rongeurs qui vont venir récupérer certaines graines ou modifier un petit peu ses repères visuels. Donc retrouver 3 000 cachettes quand on a du mal à retrouver nous nos clés le matin, je parle pour moi. Il faut imaginer ce que c'est que 3 000 cachettes.
Ah bah nous on a inventé des applis pour ça.
C'est ça, exactement. Et on a la technologie, mais qui nous est pas forcément utile en termes d'évolution de l'intelligence.
Emmanuelle Puydebas, vous avez même remarqué que ces animaux qui stockent la nourriture, qui ont cette capacité-là, sont mieux équipés en termes de cerveau que les autres animaux. Quelle est la différence ?
En fait, il y a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui est impliquée dans la mémorisation. Et on sait que ces oiseaux qui stockent leur nourriture, alors pas seulement le casse-noix de Clark, mais qui stockent leur nourriture, ont un hippocampe plus gros, ou en tout cas des connexions neuronales qui sont plus importantes que ceux qui stockent pas. Il y a un pendant très rapide avec l'humain d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a une étude sur les taxis londoniens qui, en forte période d'activité, parce qu'en fait les taxis londoniens doivent vraiment mémoriser énormément de rues avant de passer leur diplôme, et on sait que pendant cette période de mémorisation ils activent leur hippocampe bien plus que dans des périodes où ils n'ont pas à mémoriser. Convergence entre l'humain et l'oiseau.
D'ailleurs, à propos de taxi, demain on racontera l'histoire d'un Français qui est devenu chauffeur de taxi à New York, qui va nous expliquer comment c'est possible. Alors, est-ce que l'intelligence est liée à la taille du cerveau, ou à un rapport entre la taille du cerveau et la taille de l'animal? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien. C'est des travaux qui ont commencé il y a longtemps, de faire des corrélations de taille et d'intelligence. Non, on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui montrent que c'est pas lié à la taille du cerveau, y compris en tenant compte de la taille du corps. C'est vraiment lié à certaines zones, à l'activité neuronale de certaines zones. On sait par exemple que certains oiseaux ont plus de neurones dans certaines zones du cerveau que les humains. Ça fait pas d'eux forcément des espèces plus intelligentes que nous.
Et même dans l'eau, les animaux manifestent leur intelligence, et vous allez découvrir dans un instant sur RTL que l'eau peut être un outil plein de ressources.
Vous écoutez RTL.
RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ça rappelle quelque chose, cette musique?
Oui, mais musique si de film. Un éléphant trompe énormément, il a très bonne mémoire.
Et oui, mémoire d'éléphant, cervelle d'oiseau, l'intelligence animale, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invité, Emmanuel Puydeba, chercheuse au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. On va plonger un peu avec vous, Emmanuel, et se passionner pour les animaux aquatiques. Est-ce qu'ils sont nombreux à utiliser des outils?
Alors, je vais vous donner une réponse par rapport aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a très peu d'espèces aquatiques qui sont connues, finalement.
Ah oui,
il y a moins de 10% d'espèces aquatiques recensées. Donc du coup, pour faire un recensement exact de l'utilisation d'outils en milieu aquatique, c'est très difficile. Par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'exemples d'utilisation d'outils en milieu aquatique, et probablement en partie parce qu'ils ont des capacités sensorielles très développées. Je pense par exemple au dauphin, qui est un des rares utilisateurs d'outils, mais qui en utilise relativement peu, notamment parce qu'il a ses capacités d'écholocation pour trouver ses proies. Mais après, il y en a quand même.
Alors, parmi les cétacés, Emmanuel Puydeba, il y en a qui sont assez malins. Par exemple, les orques. Que font-ils pour chasser?
Alors, les orques, alors là, c'est pas vraiment l'utilisation d'outils, mais par contre, ils peuvent... Alors, sauf si on considère que l'eau peut être un outil.
Oui, j'avais l'impression que vous expliquiez ça.
Oui, disons que c'est vrai qu'il utilise l'eau pour faire des grosses vagues, pour ramener des otaries ou les phoques à lui, et il casse aussi parfois des morceaux de banquise pour que justement les phoques tombent dans l'eau et qu'ils puissent les récupérer. Donc c'est sûr que c'est une stratégie, mais c'est pas une utilisation d'outils dans le sens où par exemple il y a des grands dauphins qui vont arracher des éponges au fond de l'eau pour se les mettre sur le nez, sur le rostre, et se protéger des sédiments pour faire par exemple ressortir des perches de sable sans s'abîmer le nez.
Ça, c'est un outil.
Oui, parce que c'est vraiment un élément extérieur à son milieu qui va se procurer et l'utiliser dans un autre but. Donc, par rapport à la définition de l'outil, on est vraiment dans l'eau, c'est vraiment c'est son milieu. Mais ça peut être considéré comme un outil. Moi, ça me choque pas. C'est juste, faut juste préciser les choses.
Alors, puisqu'on est avec les cétacés, la baleine à brosse, comment elle se nourrit?
Parce que la baleine à brosse...
J'ai dit à brosse.
Alors, je la connais pas, celle-là.
La baleine à bosse, alors comment elle fait pour attraper ses proies?
Elle fait des bulles.
Alors, attendez, vous nous avez dit qu'on ne connaissait que 10% des espèces.
Il y a peut-être une
baleine à brosse quelque part.
Imaginons qu'il y en ait une quelque part, probablement abyssale, et on ne l'a pas encore trouvée.
Bon, alors, allez, j'ai fini de ramer, à vous de nous expliquer.
La baleine à bosse, en fait, elle fait des bulles circulaires. Ça fait une espèce de cylindre qui remontent.
Oui.
Et en plus, il y a une coopération entre les baleines. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se charge, en gros, je caricature, enfin, je résume, hein, il y en a une qui fait des bulles circulaires.
Oui.
Le cylindre, ça forme un cylindre qui monte à la verticale. Ensuite, la baleine passe sous les poissons qui sont piégés dans ce cylindre vertical. Elle se met dessous pour les faire monter vers la surface. Et à la surface, bah, il y a les copines, en gros, qui récupèrent les poissons.
Mmh, c'est génial.
Et le grand dauphin, lui,
pour les harengs, c'est moins génial, mais pour la baleine, c'est formidable.
Ça dépend de quel côté. Moi, je suis du côté des harengs, tiens,
ah bon,
juste pour
bah
vous contredire.
Si vous voulez, hein.
Le grand dauphin, Emmanuel Puy-de-Bas, lui, il utilise un écran de boue.
Oui, alors là aussi, c'est une stratégie circulaire, mais par contre, c'est pas vraiment des bulles. C'est plus, en fait, il va, de manière circulaire, il va faire, en battant de la nageoire ou en soufflant dans le sable, il va faire remonter des espèces de. Un cylindre de boue, en fait. Après, l'idée est la même. On piège les poissons dans le cylindre de boue et ensuite, on les récupère en surface.
Alors, on a déjà raconté ici à quel point la pieuvre ou le poulpe était particulièrement. Intelligent, c'est vraiment l'un des animaux les plus intelligents du règne aquatique.
J'aime pas cette notion le plus intelligent.
Ah oui, vous voulez pas faire de classement.
Non, parce que je peux pas en fait.
Ouais,
même si je suis
ouais.
très objective, je peux pas parce que pour certains comportements, bah oui, le poulpe va être extraordinaire et pour d'autres, il va être mauvais et inversement.
Mmh. Mais il est mauvais en quoi le poulpe?
Oh, je peux pas.
Entre autres choses.
Non, mais par exemple, il y a cette histoire de labyrinthe. On va mettre on la raconte souvent, mais on va mettre un bocal avec un morceau de crabe à l'intérieur et le poulpe, il va trouver son chemin dans le labyrinthe,
oui.
ouvrir et puis surtout. Si je ne me trompe, si je me souviens bien de ce qu'on avait dit dans l'émission, aller de plus en plus vite, c'est-à-dire apprendre de ses erreurs.
Oh oui, il y a un apprentissage chez le poulpe. Et ça m'intéresse grandement parce qu'on parlait tout à l'heure de hiérarchisation de l'intelligence.
Mm-hmm.
Les ancêtres du poulpe, c'est peut-être 400, 500, plus de 500 millions d'années. Donc imaginez si dès cette époque-là, on savait apprendre de son expérience pour s'améliorer. C'est quelque chose de très haut dans la hiérarchie cognitive.
Alors, quelque chose qu'on n'a jamais raconté dans l'émission, c'est l'histoire de la pieuvre noix de coco.
Oui, alors ça, oui,
c'est extraordinaire.
Ça, on peut aller rapidement.
S'il y a des pieuvres,
vidéos.
Notre coco peut bien y avoir des baleines à brosse,
oui,
hein, franchement.
Moi, je valide la baleine à brosse. Quand pour la pieuvre noix de coco, c'est vraiment rigolo. Il faut imaginer cette petite pieuvre qui récupère en fait des noix de coco vides et qui s'enferme dedans. En fait, pour se protéger. Donc, elle se promène avec sa noix de coco, donc elle transporte son outil,
oui.
et ensuite elle s'arrête, elle se protège avec. Et c'est un comportement qui s'est généralisé chez plusieurs pieuvres.
Alors, à mi-chemin entre l'eau et la terre, il y a les crocodiles et les alligators. Ils ont des techniques aussi pour attirer leurs proies. Alors, est-ce qu'ils utilisent des outils, eux, ou pas?
Oui, je pense qu'on peut considérer ça comme un outil. C'est assez récent et c'est très intéressant parce que chez les reptiles, il y avait très peu d'exemples. Enfin, il n'y en avait pas, en fait. Donc, ça a révolutionné un peu l'intelligence des reptiles. Ça m'a bien plu. En fait, il faut imaginer les alligators. Les crocodiles font ça aussi. Au moment de chasser les aigrettes, en fait, ils utilisent des bâtons comme appât. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent les branches que les aigrettes utilisent pour leur nid. Ils se les mettent sur le crâne et ils se mettent en surface comme ça avec les branches sur le crâne, et les aigrettes veulent récupérer les branches pour faire leur nid, et là, ils les attrapent. Donc, en fait, c'est vraiment une utilisation d'outils comme un appât, comme faisait le héron tout à l'heure, sauf qu'avec un morceau de pain, il utilise une branche.
Oui, mais puisqu'on dit que les oiseaux sont intelligents, s'ils se font avoir une ou deux fois, après, ça marche plus, ou pas?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas toujours intelligent en fonction des situations. C'est-à-dire qu'on parle de comparaison entre espèces, mais au sein de la même espèce, on peut aussi s'amuser à comparer les individus, et là, on n'est pas tous égaux. Et on peut être très intelligent dans un domaine, et puis beaucoup moins dans un autre. C'est pas pour ça que ça fait de nous, d'une manière générale, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'idiot. C'est juste qu'on a des capacités différentes selon les contextes et selon les comportements.
Et ça marche pour les humains aussi.
Et oui, évidemment. On va terminer là-dessus.
Vous allez dire ça aussi, Thomas?
Bah oui, on dit les mêmes choses tous
les
deux.
On pense pareil.
Hein, c'est dingue. Merci beaucoup, Emmanuel
Puy-de-Bas. Merci à vous.
C'était top.
Merci à vous.
On vous publie L'intelligence animale, cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant chez Odile Jacob.
Vous écoutez RTL.